Le journal est présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. On vient d'apprendre à l'instant le décès du compositeur français Michel Legrand. Il avait composé notamment la musique des Demoiselles de Rochefort, entre autres grands moments de musique française. On rendra hommage à Michel Legrand à la fin de ce journal. Au Venezuela, la crise politique continue dans un pays qui subit depuis des années une profonde crise économique et sociale. Hier, le président autoproclamé Guaido a refusé la proposition du président élu Nicolas Maduro de le rencontrer. Pendant ce temps, les réfugiés continuent de traverser la frontière, notamment en direction de la Colombie. Reportage sur place.
C'est dans ce contexte que le shutdown est suspendu après 35 jours de blocage aux États-Unis autour du projet de mur anti-migrants de Donald Trump.
Les démocrates ont remporté la première manche du bras de fer face au président américain au Congrès. Un accord temporaire est signé, mais Donald Trump n'a pas tiré un trait définitif sur cette promesse de campagne. Décryptage avec Loïc Loury dans un instant. Ce matin, votre invité Caroline est l'historien Jean-Pierre Fildu.
Oui, les spécialistes du Moyen-Orient, nous avions envie de tourner nos regards notamment vers la Syrie et Israël. Israël auquel notre invité consacre un ouvrage en cette rentrée de janvier. Et la Syrie qui connaît à nouveau des attentats meurtriers. On verra notamment où en est Daesh et où en est le pouvoir de Bachar al-Assad.
Et dans ce journal, nous irons aussi au Brésil où un nouveau barrage minier s'est rompu hier. Déjà 9 morts et plus de 300 personnes portées disparues selon les premiers éléments. Précision à suivre avec notre correspondante Anne Vigna. Et puis en France, c'est le 11e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Alors que le grand débat continue, nous irons à Marseille prendre la température de ces échanges. Le Venezuela, toujours traversé par une crise politique sans précédent. Depuis mercredi, le pays a deux présidents. D'un côté, Nicolas Maduro, dont la réélection le 20 mai dernier est contestée par une partie de la communauté internationale et par l'opposition. De l'autre, Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale, qui s'est autoproclamé président par intérim jusqu'à la convocation de nouvelles élections. Les deux hommes paraissent irréconciliables. Pourtant, en conférence de presse hier, Nicolas Maduro a fait un pas vers son jeune rival, Benjamin Delisle.
Devant un parterre de journalistes vénézuéliens et internationaux, Nicolas Maduro a une nouvelle fois condamné ce qu'il qualifie de coup d'État. Selon le président vénézuélien, celui qui ne respecte pas la Constitution, c'est bien Juan Guaido en s'autoproclamant président par intérim. En revanche, le chef de l'État s'est tout de même dit prêt à dialoguer avec l'opposant.
Yo estoy comprometido.
Je m'engage en faveur d'un dialogue national. Aujourd'hui, demain et toujours, je serai prêt à aller où il faut aller. Personnellement, si je dois aller voir ce garçon, j'irai. J'espère que le plus vite possible, l'opposition vénézuélienne sortira du piège dans lequel on l'a mise, de l'extrémisme où on l'a poussée. Alors, on parlera du chemin vers un dialogue raisonnable, sincère, dans l'intérêt de la majorité des Vénézuéliens.
Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, l'un des rares en Amérique latine à n'avoir pas reconnu Juan Guaido, s'est d'ailleurs proposé pour jouer les intermédiaires. Une offre rejetée par le président de l'Assemblée nationale. Il refuse d'avoir, je cite, un faux dialogue avec Nicolas Maduro.
Benjamin Delisle à Caracas pour France Culture. Et pendant ce temps, la population continue de souffrir dans un pays au bord de l'explosion, épuisé aussi par des années de profonde crise économique. À la frontière avec la Colombie, les réfugiés qui passent racontent le manque de tout. Reportage à Cucuta de notre envoyé spécial, Nathanaël Charbonnier.
Il est difficile d'imaginer le quotidien des Vénézuéliens, difficile d'imaginer ce moment où l'on doit vendre le peu qu'il nous reste quand on n'a plus rien. José Luis a tout vendu, il arrive de Caracas et décrit une situation inimaginable.
Un paquet de farine coûte ce qu'on gagne en un mois. Les gens meurent de faim au Venezuela. Il y en a même qui font les poubelles pour pouvoir manger. J'ai vendu ma voiture et c'est grâce à cet argent que je peux faire mes courses ici.
Quelques minutes plus tard, passe cette femme âgée, son trésor, un vieux pneu qu'elle garde précieusement dans un sac plastique. Mais ici, à la frontière, ce qui intéresse les Colombiens qui viennent faire des affaires, c'est tout autre chose.
Cet homme me propose d'acheter mes cheveux. Ils achètent beaucoup les cheveux des femmes ici et franchement, je ne sais pas ce qu'ils en font. Je ne les ai pas vendus parce que je n'en ai pas beaucoup. La situation empire. Il faut que Maduro s'en aille parce qu'il est mauvais. Le peuple a faim et manque de tout.
Le peuple a faim et il souffre et cela se voit à la frontière. Les autorités colombiennes estiment à 100 000 le nombre de réfugiés qui quittent tous les mois le Venezuela.
avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Et c'est depuis l'Amérique centrale, précisément depuis le paradis fiscal du Panama, que le pape François a prononcé un plaidoyer en faveur de l'accueil des migrants lors des JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse. Nous voulons être l'Église qui favorise une culture qui sait accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Une culture qui ne stigmatise pas et surtout qui ne généralise pas par la condamnation la plus absurde et la plus irresponsable en identifiant tout migrant comme porteur du mal social, selon les mots du souverain pontife.
Des mots qui résonnent jusqu'aux États-Unis en passant par le Mexique, alors que le président Donald Trump vient de céder de manière temporaire concernant son projet de construire un mur anti-migrant à la frontière avec le Mexique.
Oui, le shutdown est donc levé pour l'instant, car le blocage du vote du budget aux États-Unis portait sur le refus des démocrates de valider cette dépense du président Trump. Le Congrès a donc approuvé hier à l'unanimité un accord de sortie de crise provisoire jusqu'au 15 février prochain. Après 35 jours de blocage, plus d'un mois de paralysie fédérale, un record. Le président a reculé face aux démocrates, mais n'a pas renoncé à son projet de manière définitive. À New York, Loïc Loury.
Trois semaines de répit pour des centaines de milliers d'employés fédéraux. Après 34 jours de shutdown, le blocage est enfin levé. 800 000 fonctionnaires pourront à nouveau recevoir leur salaire. Donald Trump l'a annoncé depuis les jardins de la Maison-Blanche.
Je suis très fier d'annoncer aujourd'hui que nous avons trouvé un accord pour lever le shutdown et rouvrir les administrations.
Le président accepte donc l'accord des démocrates. Une solution temporaire, le temps de négocier. Pas un dollar n'est prévu pour le mur du milliardaire. Donald Trump ne s'annonce pas vaincu pour autant.
Nous n'avons vraiment pas d'autre choix que de construire un puissant mur. Si nous n'obtenons pas un accord juste de la part du Congrès, le shutdown pourrait reprendre une fois encore le 15 février.
Mais les démocrates le savent, leur adversaire a un genou à terre, ils ne comptent pas faire marche arrière au cours des trois prochaines semaines. Chuck Schumer, le leader démocrate au Sénat.
Cela donne aux démocrates et aux républicains l'opportunité de parler de sécurité aux frontières sans prendre en otage des centaines de milliers de travailleurs américains. Espérons qu'une leçon a été retenue.
Trump lui menace encore une fois, s'il n'est pas satisfait, il utilisera l'état d'urgence pour contourner le Parlement.
Loïc Loury à New York pour France Culture. Au Brésil, au moins 9 morts et près de 300 personnes portées et disparues, selon les chiffres encore provisoires donnés ce matin par les pompiers sur place. Une catastrophe après la rupture d'un barrage minier dans le sud-est du pays, alors qu'un autre barrage avait déjà cédé dans la même région il y a 3 ans dans l'état brésilien du Minas Gerais, dans le sud-est. Ces barrages en retiennent une boue de déchets toxiques issus de la mine Anvinha.
Un barrage de déchets miniers a cédé dans l'état du Minas Gerais, au nord de Rio de Janeiro. Comme en 2015, dans la même région, les habitants ont vu un tsunami de boue tout emporté sur son passage. On craint déjà la disparition d'au moins 200 personnes, un village entier ayant été recouvert en quelques minutes par de la boue toxique. Ce barrage appartenait, comme celui de Mariana en 2015, à l'entreprise minière Vale. Biologistes et ONG assurent que ce barrage n'était pas aux normes de sécurité et que l'entreprise n'avaient pas pris en compte leur mise en garde. Selon le témoignage de plusieurs habitants, aucune alarme n'a retenti pour prévenir de l'arrivée de la boue. La catastrophe écologique devrait être moins importante que celle de Mariana il y a 3 ans, le barrage retenant 5 fois moins de déchets toxiques. Mais on estime que 12 000 mètres cubes de boue toxique se sont déjà déversés.
Anvinha au Brésil pour France Culture. Il y aura bien des lanceurs d'alerte de balles, des lanceurs de balles de défense, les LBD, aujourd'hui dans les rues de Paris pour le 11e acte du mouvement des Gilets jaunes. Cet équipement des forces de l'ordre n'a pas été interdit hier par le tribunal administratif de Paris. Le tribunal a invoqué l'utilisation des caméras piétons dans la capitale pour justifier le maintien de ces fameuses LBD. Le problème, c'est que ces caméras soulèvent beaucoup d'interrogations au sein même des syndicats de police. Yves Lefebvre est secrétaire général du syndicat Unité SGPFO.
Aucun des CRS n'est équipé de la caméra piéton. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, dans la plupart des commissariats de France, on n'a pas de caméra piéton. Aujourd'hui, c'est un vœu. Ça fait partie des déploiements budgétaires prévus sur l'exercice 2019. Mais entre la prévision et la livraison, il y a tout un monde. Et de plus, rien ne prouve aujourd'hui, techniquement parlant, que la caméra piéton est compatible dans son emploi avec celui du LBD, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui si on pourra les faire fonctionner. La décision a été prise, sauf erreur de ma part, mardi soir par Christophe Castaner, mais entre mardi soir et samedi midi, on n'aura bien évidemment pas le temps de faire les ajustements techniques pour ce faire. Et en tout état de cause, il pourra faire le distinguo entre deux formats de tir. Il y a le format du tir après sommation, donc l'autorité policière présente sur place décline ces trois sommations. Et ensuite, là, à ce moment-là, les tireurs de LBD auront le temps d'actionner leur caméra piéton. Par contre, dans le cas, ce qui est le plus usuel d'ailleurs au demeurant, on peut considérer que deux tiers des tirs ont été exercés en tir de riposte, de sauvegarde, d'extraction. Là, il faudra que l'agent ait le temps de le mettre en route. Et bien évidemment, il va, et légitimement, et je le soutiendrai à 1000%, d'abord vouloir sauver sa peau avant de penser à la caméra.
Avec Marjorie Péjac pour cette prise de parole du secrétaire général du syndicat Unité SGPFO. Pendant ce temps, le grand débat national se poursuit sur tout le territoire. Dans certaines mairies, des cahiers de doléances ont été ouverts à la population. Des débats citoyens s'organisent. D'autres Français ont choisi de contribuer en ligne sur Internet. Dans les quartiers nord de Marseille, Saïd Amada, le député LAREM de la circonscription, accueillait hier soir des habitants désireux de participer à cette initiative. Marie-Christine Loriol.
Dans ces quartiers populaires du nord de Marseille, la culture du débat et du militantisme existe depuis longtemps. L'associatif est omniprésent. Beaucoup ont sauté sur l'occasion de se faire entendre pour faire remonter les préoccupations de la population. Anissa est la présidente du comité de quartier de la Viste. Elle s'étonne de l'absence de la place de l'enfant dans les grands thèmes choisis.
Je suis venue aujourd'hui parce que nos écoles ils sont à l'abandon, parce que nos enfants ne mangent pas à leur faim, parce que nos enfants ne savent pas nager. Je veux dénoncer ça.
L'enfant et son éducation, c'est également le débat que veut organiser Didier, un ancien directeur d'école à la retraite depuis 2 ans.
Je pense que l'école est un thème prioritaire dans les quartiers un peu plus complexes. L'éducation et tout ce qui tourne autour de l'école, ce qui se passe autour des familles aussi.
Autant de propositions et de demandes qui doivent remonter pour que ces territoires soient entendus, explique Saïd Ahamada, le député de la circonscription.
Ces territoires ne sont pas descendus dans les rues. Par contre, ils ont des besoins. Et parfois beaucoup plus important que ceux qui étaient sur les ronds-points. Et donc on a une obligation de résultat pour faire en sorte que ce qui émane de ces territoires soit entendu au plus haut niveau, soit porté et bien porté.
Une courroie de transmission directe avec l'exécutif, avec le président, conclut le député, il faut en profiter.
Marie-Christine Loriol à Marseille pour France Culture. La gronde des universités françaises contre une mesure visant à augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers se poursuit. En novembre dernier, le gouvernement a décidé qu'à partir de la rentrée 2019, les étudiants non européens devront payer des frais de scolarité de 2770 euros à 3770 euros contre à l'origine 170 à 380 euros pour les étudiants européens. Ils sont 343 000 à être recensés en France selon les chiffres de l'année dernière. Face à cette grogne, une consultation a été lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Elle doit s'achever fin février, mais la ministre a indiqué que le principe et le calendrier de la hausse des frais ne seront pas remis en cause. Alors de nombreux présidents d'universités ont donc indiqué qu'ils mettront en place toutes les possibilités réglementaires qui existent pour que des étudiants étrangers payent les mêmes frais d'inscription qu'aujourd'hui à la rentrée prochaine. Et puis c'était un titre donné tout à l'heure, on a appris à l'instant ce matin, la mort de Michel Legrand, le grand compositeur français de musique, de films, notamment avec le réalisateur Jacques Demy. Il avait donc contribué au film Les Demoiselles de Rochefort avec cette chanson donc de Maxence, le marin, rêvant à son idéal féminin.
Soyez pas triste, monsieur Maxence. Des filles, après tout, il y en a plein les magasins.
Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Mania encore, de Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde. Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix, j'ai dessiné son corps et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image. Elle a cette beauté des filles romantiques,
Voilà le talent de Michel Legrand, un des plus grands compositeurs français qui avait été récompensé notamment pour plusieurs musiques de films.
Ouais, un des plus grands contributeurs des musiques de films français, les Jacques Demy, en effet, les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort,
les Moulins de mon cœur,
l'affaire Thomas Crown, Un été 42, Peau d'âne, Cléo de 5 à 7, La piscine, Les uns et les autres, Lola, Le messager, La bûche, il y en a des centaines, des albums, des chansons, des musiques. On peut quand même réécouter, Sophie, tout de suite, les Avoies nues que Alain Crugère sur France Culture avait consacré à Michel Legrand, qui était né en 1932. Et bien entendu, France Culture reviendra très longuement, d'abord sur le site de France Culture et puis ensuite à la radio, évidemment, ce week-end et je suppose dès la semaine prochaine sur cette disparition de Michel Legrand.
Et Caroline, comme en 1962 lors des Parapluies de Cherbourg, il pleut aujourd'hui sur Cherbourg.
Ah bah voilà.
Dans la météo, ça n'a pas changé. Tout comme le talent de Michel Legrand, encore aujourd'hui. Un temps gris et pluvieux presque partout ce matin, avec des averses sur le nord, la région parisienne, le Grand Est et la Normandie. Une alternance de nuages et d'éclaircies le long des Pyrénées. Et pour trouver un grand ciel bleu, eh bien, il faudra aller au bord de la Méditerranée. Les températures sont comprises ce matin entre moins 4 degrés sur le nord des Alpes et 12 degrés à Perpignan, avec 0 degrés à Grenoble, 3 à Lyon et Strasbourg, 6 à Châteauroux, 8 à Paris, Marseille et Nantes, 9 à Nice, 12 degrés à Narbonne.